Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux dérivés du cannabis. À l'ordre du jour ce soir, les nouveaux usages du cannabis changent-ils la donne sur la légalisation ? Nous vivons, semble-t-il, dans le pays européen le plus répressif quant à l'usage du cannabis. Il apparaît d'autant plus surprenant que 2 ans après l'ouverture un peu partout en France de magasins détaillant du CBD, autrement nommé cannabis bien-être, et alors que commence dans quelques jours une expérimentation de 2 ans sur l'usage du cannabis médical, une consultation citoyenne ait pu être lancée sur le cannabis récréatif dans le cadre d'une mission d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis en France. Et à lire Libération ce matin 17 février, la surprise ne s'arrête pas là puisque 3 députés de bords différents, après d'autres députés il y a quelques mois, appellent à la légalisation du cannabis qui relève, selon eux, je cite, du courage politique. Alors que se passe-t-il donc ? C'est la question que nous allons poser à nos 3 invités. Nicolas Pris, bonsoir Nicolas Pris.
Bonsoir, merci.
Vous êtes président depuis 4 ans de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA. Avec nous également Caroline Janvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée du Loiret et LREM et vous êtes rapporteur thématique sur le cannabis récréatif. On en parlera avec vous et avec nous également Marie-Geoffrey Roustide, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur à l'INSERM et spécialiste des politiques des drogues.
Parce qu'il y a des malades qui en ont besoin, parce que ça existe partout autour de nous, et que la France est l'un des derniers pays de l'Union européenne à ne pas l'avoir autorisé, parce que vous avez des milliers de malades qui sont sans solution pour des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, des douleurs causées par des lésions neurologiques, des douleurs liées à des cancers, certains troubles psychiatriques, ce qu'on appelle aussi la spasticité chez les malades qui ont la sclérose en plaques, enfin des maladies graves et sévères, où des malades restent sans solution, et vous avez 2 grands dérivés dans le cannabis, qu'on appelle le cannabidiol, le CBD, qui entraîne plutôt une relaxation musculaire, et le THC, qui est la molécule qui a des effets psychoactifs. Et la combinaison des deux, ou différentes combinaisons des deux, peuvent avoir un impact sur certaines douleurs dans certaines pathologies. Dans le cadre de l'expérimentation, pourront être délivrées en pharmacie hospitalière, puis en pharmacie de ville, aux malades, des huiles, des tisanes et également des fleurs séchées de cannabis qui ne fumeront pas, on ne va pas faire fumer les gens, par contre qui pourront être équipés d'un vaporiseur pour pouvoir vaporiser le cannabis dans de cadres d'indications bien précises encore une fois.
Vous avez reconnu la voix d'Olivier Véran, qui est là souvent pour parler de la question de la crise de la Covid, mais là, il était encore député en octobre 2019 et il défendait sa proposition de loi pour une expérimentation thérapeutique du cannabis et il répondait au micro de RTL qui lui demandait pourquoi la question d'un changement de doctrine sur le cannabis s'imposait selon lui. Et cette expérimentation a donc été votée et commencera dans quelques jours sur 3000 patients avant la fin mars 2021. On a l'impression, mais peut-être est-ce que je me trompe, Marie-Geoffrey Roustide, vous qui êtes sociologue et qui travaillez depuis longtemps sur les politiques des drogues, qui avait coordonné avec Jean-Maxence Granier il y a maintenant 4 ans un numéro de la revue Esprit sur les politiques des drogues, on a l'impression qu'il était assez pessimiste sur la situation française qui n'était marquée que par la répression et que quelque chose a changé depuis ces 4 ans-là. Est-ce que je me trompe, Marie-Geoffrey Roustide ?
Non, vous avez tout à fait raison. Ce qui a changé d'abord, c'est ce qui se passe à l'international. À l'époque où on avait co-dirigé donc avec Jean-Maxence Granier ce numéro d'Esprit, il y avait quelques pays qui avaient commencé à légaliser le cannabis, mais on n'était pas dans le mouvement actuel. Donc depuis, on a le Canada qui a lancé donc la légalisation. Et puis sur la décriminalisation de l'usage là de toutes les drogues, on avait uniquement le Portugal. Et depuis quelques mois, on a également maintenant l'état de l'Oregon aux États-Unis. Donc en fait, au niveau international, on a vraiment un mouvement vers de nouveaux modes de régulation qui ne sont pas basés sur la prohibition qui se développe. Donc en fait, on est vraiment à un moment charnière.
Caroline Janvier, vous avez cette impression, vous qui êtes rapporteur thématique sur le cannabis récréatif dans cette mission d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Vous avez l'impression que quelque chose a vaguement changé depuis quelques jours. Et puis le numéro de Libération ce matin avec des députés qui sont de différents bords, venant du groupe LR de chez Libre, de LREM, le groupe que vous représentez ici, Jean-Baptiste Moreau, qui est député de la Creuse, ou encore Daniel Obono de la France Insoumise, qui s'allie pour demander une légalisation. On est un peu étonné.
Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a en effet la conjonction de deux phénomènes. D'une part, on a beaucoup plus de recul sur les expériences étrangères et sur ces pays qui ont franchi le pas. Alors, pour certains, il y a déjà un moment, hein, l'Uruguay, c'était en 2013, le Canada, c'est plus récent, c'est en 2018. On a un certain nombre d'éléments chiffrés sur les effets, à la fois sur la consommation des jeunes, qui sont évidemment les usagers les plus vulnérables, sur le crime organisé, sur la façon dont on peut ou non assécher le marché noir, sur la façon dont on peut améliorer aussi la prévention. Donc on a beaucoup plus de données qui nous permettent de comparer la politique publique qui est celle de la France depuis maintenant 50 ans avec ce qui se passe ailleurs. Et par ailleurs, et vous l'avez noté avec notamment cet article de Libération d'aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi un certain nombre aujourd'hui de responsables politiques, de députés, mais aussi de maires. Un certain nombre de maires, notamment des Républicains, ont écrit des tribunes à ce sujet, qui finalement souhaitent changer d'approche sur la question des drogues et en particulier sur la question du cannabis, en finalement préférant l'approche pragmatique, la recherche de l'efficacité, à une approche qui a longtemps prévalu, qui est l'idéologie, et qui ne permet pas forcément d'avancer sur un sujet comme celui-ci.
Alors j'imagine, Nicolas Prisse, quand vous voyez arriver ces tribunes, que ce soit celle des trois maires LR, citée à l'instant par Caroline Janvier, c'était au mois de septembre dernier dans le JDD, c'était donc Gilles Averrousse de Châteauroux, Boris Ravignon de Charleville-Mézières et Arnaud Robinet de Reims, ou encore d'autres fois, c'était en juin dernier, des députés qui, de toute tendance, demandaient la légalisation du cannabis, et encore ce matin, ces trois députés de tendances différentes qui demandent cela, que vous, en tant que responsable de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, vous vous dites qu'est-ce qui se passe ?
Oui, alors moi je verrai le changement sous deux angles particulièrement. Le premier, c'est celui de la connaissance, c'est-à-dire effectivement des résultats qui, au fur et à mesure du temps, s'accumulent, d'abord pour nous dire quelle est la réalité des phénomènes en France, en Europe, à l'international, nous dire la réalité des risques également, nous dire la réalité des perspectives thérapeutiques ou des perspectives de bien-être, on y reviendra très probablement. Donc on a désormais un corpus de connaissances qui est beaucoup mieux établi.
C'est-à-dire, vous voulez dire qu'auparavant, on avait une sorte de bloc, ça s'appelait cannabis, et qu'on ne faisait pas la distinction entre cannabis thérapeutique, de bien-être ou récréatif, comme on le fait aujourd'hui, par
exemple. Absolument, et il faut être très précis, parce que pour chaque usage, on a des choses relativement différentes. Mais on a globalement un corpus de connaissances plus précis. Mais le deuxième sujet, à mon avis, de vrai changement, c'est l'émergence d'un marché économique de produits, effectivement, à côté du marché tenu par les organisations criminelles. Et on a un marché qui s'exprime désormais au travers de médicaments ou au travers d'un segment bien-être. Et certains veulent, au travers de ce sujet-là, de ces deux premiers sujets, embarquer l'usage récréatif.
Oui, alors l'usage récréatif, c'est donc celui sur lequel vous travaillez, Caroline Janvier. Comment faites-vous la distinction entre ces trois usages ? Donc bien-être, c'est ce qu'on appelle le CBD, dont on va parler dans un instant. Le cannabis récréatif, c'est celui donc qui contient un fort taux de THC, qui devient un stupéfiant. Et puis le cannabis thérapeutique, c'est celui dont on va ouvrir, pour lequel on va ouvrir une expérimentation à partir de la semaine ou dans les deux semaines qui viennent. Donc sur deux ans pour 3000 malades. Quelle différence faites-vous, vous, en tant que député, sur ces trois usages-là ?
Alors, effectivement, on tient beaucoup à faire cette différence parce qu'il s'agit bien de ne pas considérer le cannabis ou chanvre thérapeutique, le cannabis dit bien-être, comme les chevaux de Troie du cannabis à usage récréatif ou cannabis stupéfiant. Puisque dans le dernier cas, dans le cas du cannabis dit récréatif, nous avons en effet cette molécule de THC qui a un effet psychotrope, qui donc produit une altération de la conscience et comporte un certain nombre de risques qui sont majorés chez les plus jeunes, hein, notamment sur le développement neuronal et donc sur les facultés de mémorisation, de concentration. Et donc il convient vraiment de distinguer cela, par exemple, du cannabis thérapeutique qui là est prescrit par un médecin, délivré en pharmacie et correspond finalement à un processus médical. Ça nous paraît important puisqu'en effet, la confusion et le sujet du cannabis charrie beaucoup d'amalgames et à mon sens de confusion, et cela ne permet pas d'avoir un débat à la fois serein et objectif sur ces questions qui sont différentes, même si on parle toujours évidemment de la même plante qui est la plante de chambre.
Alors tout de même, Marie-Geoffrey Roustide, il y a cette idée de contamination possible d'un des supports à un autre support, et on voit ce qui se passe autour du CBD, donc qui est tiré du chanvre, mais qui ne contient que 0,2% maximum de THC, cette molécule qui altère les états de conscience, comme vient de le dire Caroline Janvier. Et ce CBD est en vente un peu partout dans toutes nos villes depuis maintenant 2018. On le trouve partout, mais certains maires demandent la fermeture de ces établissements, considérant que ça serait une sorte d'accoutumance à l'usage, une sorte de préparation à l'usage récréatif, et qu'il n'est pas bon d'avoir cela dans sa ville. Et néanmoins, il y a un arrêt de justice de la Cour de l'Union européenne qui a été voté, qui a été rendu il y a quelques semaines, et qui disait que interdire cet usage du CBD n'avait aucune raison d'être, et qu'il fallait donc remettre la législation d'aplomb sur ce point.
Alors, sur la question du CBD, effectivement, les risques sont complètement différents de ceux du cannabis. En tout cas, il me semble important quand même d'avoir une réglementation autour du CBD. Et je pense que ce qui est important dans le débat sur les drogues, c'est que la loi française actuellement est une loi qui prohibe et qui punit l'usage, et donc qui n'est pas efficace, puisque, vous l'avez rappelé, hein, on a un des niveaux de cannabis les plus élevés en Europe, mais il faut penser également la loi et l'encadrement des usages comme un encadrement qui va également permettre de faire plus d'informations, plus de prévention, donc en fait des formes de régulation qui s'appuient à la fois sur des normes juridiques et sur des normes sociales. Et en fait, c'est ce qui se passe au Portugal. Je pense que le Portugal, c'est un exemple très intéressant, c'est-à-dire qu'au Portugal, on a une décriminalisation de l'usage, et on a un taux de consommation de cannabis dans la population générale, chez les 15-34 ans, qui est de 8%, alors que l'usage n'est pas puni par la loi, et qu'en France, à l'inverse, on a un usage puni par la loi et on a un taux de consommation dans ce même niveau de population qui est de 22%. Donc en fait, je pense que ce qui est important, dans le débat, c'est de voir que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas dans son versant prohibitif, n'est pas efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à d'autres modes de régulation. Sur la question du passage et de la normalisation des usages, il y a des études qui ont été menées sur la légalisation du cannabis aux États-Unis, et qui ont mis en évidence, donc un article qui a été publié dans le BMJ Open en 2020, que le fait de légaliser le cannabis dans ses usages médicaux, par exemple, n'entraînait pas de normalisation du cannabis chez les plus jeunes. On observait ces formes de normalisation chez les seniors, par exemple, mais par contre, on ne l'observait pas chez les adolescents. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas faire de lien causal entre le fait de proposer du cannabis à usage médical ou ouvrir la possibilité d'acheter du CBD comme une forme de passerelle automatique vers une normalisation de l'usage du cannabis en population générale et en particulier chez les plus jeunes. C'est plus complexe.
Nicolas Price, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marie-Geoffrey Roustide, c'est-à-dire est-ce que vous craignez pas, vous, en tant que président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qu'il y ait justement cette contamination d'un support à un autre tiré du cannabis?
Non, je pense que réellement, si on se base sur les connaissances et qu'on travaille la question de l'approche thérapeutique comme un médicament, avec l'approche bénéfice-risque, et qu'on vise bien derrière à faire le distinguo entre les trois types d'usages, il n'y aura pas de problème sur le sujet.
C'est-à-dire que, par exemple, vous pensez qu'on peut laisser ouverts les magasins de CBD avec 0,2% de...
Je parle du médical, de l'usage médical.
Moi, je vous parlais des trois usages.
Sur l'usage médical, regardez l'exemple de la morphine qui est fabriquée avec le pavot, qui est lui-même à l'origine de l'héroïne. Il n'y a pas de difficulté à faire cette cohabitation.
On est d'accord, mais pour le bien-être, par exemple.
Alors, le bien-être, c'est une question un peu différente, parce que là, on voit émerger un marché à l'échelle mondiale qui est considérable. Le marché du bien-être, pas du cannabidiol en particulier, mais d'une façon générale.
Le cannabidiol, c'est le CBD.
Le cannabidiol, c'est le CBD. Si on regarde le marché du bien-être et son taux d'expansion aujourd'hui dans l'ensemble du monde, on est sur 4 200 milliards de dollars par an, avec un taux de croissance de 5 à 6%.
Vous incluez les cours de yoga,
on inclut
les,
tout.
Vous incluez les massages, vous incluez tout ça.
Absolument. Ce que je veux bien dire, c'est qu'il y a une demande et il y a une offre qui est multiple, effectivement, et sur lequel un certain nombre d'industriels ont été, évidemment, sensibles à l'idée avec...
C'est un marché.
Molécule, c'est un marché. Et je vais essayer de vendre quelque chose qui peut être vendu comme participant de ce bien-être.
Bon, on dit que ce CBD ne libère que de la dopamine, ça n'est pas grave et que ça n'est pas très important, justement, et que ça n'est pas, il n'y a pas d'accoutumance particulière, enfin, etc., etc. Ça n'est pas un psychotrope.
Vous avez fait référence tout à l'heure à l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous oblige effectivement à modifier notre réglementation et on y travaille à l'heure actuelle. Moi, je voudrais rappeler quand même deux lignes jaunes très particulières, deux lignes rouges même particulières sur le sujet. La première, c'est que le CBD, dans ses formes destinées au bien-être, ne soigne pas. Quand on entend un certain nombre de responsables ou de personnes nous dire que on ferait mieux de prendre ça plutôt que tel ou tel médicament dans telle ou telle indication, ça c'est non. Et c'est là où on voit la porosité possible entre, dans l'esprit du public, les effets médicamenteux du véritable médicament à base de la formule du cannabis et puis la question, bien sûr, du CBD. Et le deuxième sujet extrêmement important, c'est ne pas faire à partir, on va dire, des conditionnements, de jouer sur l'image du cannabis pour inciter à la consommation du stupéfiant. C'est beaucoup trop dangereux.
C'est-à-dire enfin, qu'effectivement, dans ces magasins, on peut voir des fleurs de cannabis.
Certains jouent clairement sur cette image-là et jouent sur l'ambiguïté du produit. Enfin, pardonnez-moi, dernier mot sur la question du fait, comme le rappelait tout à l'heure le ministre, on le fait pour le médicament, il ne faut pas que le CBD soit fumé.
Voilà, alors il y a tout de même quelque chose, Caroline Janvier, c'est que on dit, mais pour l'instant, on a interdiction de faire rentrer ce chanvre et de le planter et de le faire pousser en France. Votre collègue de LREM de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, lui dit, il faut le faire parce que ça va sauver les agriculteurs. Il faut créer justement une filière parce que sinon on fait venir de l'extérieur et il n'y a pas de fournisseur français pour ce CBD alors qu'il est permis à la vente. Enfin, en tout cas, il est toléré à la vente. Tout cela, ça montre aussi qu'il y a une dimension économique, comme le disait tout à l'heure Nicolas Price, à ces questions qui sont posées par le cannabis.
Oui, mais alors la dimension économique n'est et ne peut pas être la priorité. C'est-à-dire qu'au sein de cette mission d'information, nous partageons l'objectif d'améliorer l'aspect sanitaire et l'aspect sécuritaire. Il y a après d'autres enjeux. Il y a la question budgétaire avec les recettes fiscales que pourrait percevoir l'État. Il y a la question de la justice sociale qui est le fait de traiter de la même façon les consommateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais nos priorités aujourd'hui, elles sont d'abord sanitaires, donc améliorer la question de la santé publique, la protection des mineurs, la prévention qui est aujourd'hui vraiment le parent pauvre de notre politique publique sur le sujet, et d'autre part la question de la sécurité et donc la lutte à la fois contre le trafic de cannabis, mais aussi tous les réseaux, et ils sont nombreux, d'autres trafics qui y sont associés. Ça ne peut être que la priorité et évidemment pas la question économique. Mmh. Et pour revenir juste sur ce que vous disiez précédemment sur la question de la porosité entre ces différents usages, ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'inverse, aujourd'hui, la vision très répressive et parfois fantasmé du cannabis empêche et ralentit d'avancer, notamment sur la question du thérapeutique. Et nous, on l'a vu au sein de la mission, on a alerté plusieurs fois l'administration et le gouvernement, puisqu'il y a eu beaucoup de retard qui a été pris sur cette expérimentation qui démarre fin mars. Cette expérimentation va durer 2 ans et elle ne concerne que 3000 patients. Mmh. Donc, on a encore beaucoup de chemin avant de pouvoir faire bénéficier un certain nombre de Français des effets, en effet, anxiolytiques de l'aspect qui soulage du cannabis. Donc, je crois qu'en effet, on a tout intérêt à bien différencier ces usages parce qu'aujourd'hui, on a finalement pris du retard sur la question du cannabis thérapeutique et ensuite sur le cannabis bien-être, mais c'est un autre sujet.
Oui, sur ce point, Marie-Geoffrey Rossi, on parle de porosité entre ces trois usages potentiels du cannabis. On pourrait parler aussi de porosité internationale parce que je citais tout à l'heure la Cour de justice de l'Union européenne qui va donc obliger la France à changer plus ou moins sa législation autour de la question du CBD en tout état de cause, mais aussi la Commission des stupéfiants des Nations Unies qui récemment a déclassifié le cannabis, je crois, du tableau 4 de la Convention, qui était la Convention sur les stupéfiants de 1961. Donc, ça bouge un peu partout et ça oblige aussi la France à peut-être changer de position.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense que le mouvement international qui se dessine autour d'une contestation de la prohibition dans le monde occidental actuel, voilà, un effet sur les politiques français. Et puis surtout, en fait, ce qu'on voit, hein, on l'a évoqué en début de débat, c'est qu'on a aujourd'hui un petit peu de recul. Alors, on a un peu de recul sur les données, mais malheureusement, quand même, on n'a pas un recul parfait, puisqu'en fait, les données, par exemple, qui sont produites autour de la légalisation du cannabis, montre que selon les modèles, les effets ne sont pas aussi bénéfiques. Et par exemple, sur la question du modèle américain, qui est un modèle très libéral dans certains États, on voit que là, les effets positifs en termes de santé publique sont moins bénéfiques que dans des modèles beaucoup plus régulés, comme par exemple ça va être le cas au Québec actuellement. Donc effectivement, d'un point de vue international, on a trois blocs, on va dire. On a un bloc de pays qui vont vers le mouvement de l'anti-prohibition. On a un bloc de récalcitrants qui est vraiment tout petit, hein, avec les Philippines, la Russie, qui là ont des politiques qui vont complètement à l'encontre des droits de l'homme, qui sont des politiques extrêmement répressives. Et puis on a la France qui se situe au milieu. Et le paradoxe français, c'est qu'effectivement, on a encore un blocage très fort sur la question de la loi, et en particulier donc sur la question du cannabis, mais sur la question des autres drogues, parce que moi je pense que là, il faut se poser la question de quelle est la légitimité en fait d'interdire l'usage des drogues. Mais en France, ce qu'on a, et on est un modèle sur la question de la médicalisation. Donc on est un modèle en termes d'accès aux soins, en particulier pour les usagers d'héroïne et pour la question des traitements de substitution aux opiacés. Donc je pense, enfin j'ai l'impression en tout cas...
que c'est un modèle intermédiaire.
Voilà, c'est un modèle intermédiaire et surtout que la France, enfin, là où la France pourrait bouger, c'est que la France a un état social protecteur assez fort et qu'en fait, il pourrait y avoir une ouverture sur des modes de régulation du cannabis ou d'autres drogues avec une place importante accordée à l'État. Et ça me semble extrêmement important de ne pas laisser le tout économique, le tout concurrentiel prendre le dessus dans ce débat.
Vous écoutez Le Temps du Débat, les nouveaux usages du cannabis changent-ils la donne sur la législation, avec Marie-Geoffrey Roustide que vous venez d'entendre, sociologue, Caroline Janvier, députée du Loiret, et Nicolas Price, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues. Quelques extraits de la façon dont on traite de ces questions des drogues au cinéma.
Hey, s'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac, t'auras qu'à les prendre. Hein
ouais, t'inquiète pas, ils me connaissent les renards, garde-les pour la prochaine fois.
France Culture.
On pourrait peut-être s'en faire un petit.
Le Temps du Débat.
J'étais sur une idée de start-up.
C'est Switch.
Solide.
Évidemment qu'il s'est planté avec son application.
La boucherie Azan devient la boucherie.
Emmanuel Laurentin.
Qu'est-ce qu'on fait ? On se risque sur le bizarre.
On va pas se risquer sur le bizarre comme les Tontons Flingueurs ou comme dans Marche à l'ombre ou Family Business, cette série qui marche si bien sur les réseaux autour d'une famille qui se convertit à l'usage et surtout à la façon de cultiver le cannabis. Mais Nicolas Price, en tant que président de cette mission interministérielle sur les drogues, de lutte contre les drogues, est-ce que vous comprenez cette espèce de caractère schizophrénique dans lequel on se trouve? On a ces missions qui sont en train d'être mises en place et on a de l'autre côté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit que légaliser, par exemple, le cannabis, mais il ne s'agit pas pour l'instant de légaliser, ça serait baisser les bras face à la drogue, alors que d'autres, dans sa propre majorité, comme Jean-Baptiste Moreau ou d'autres, veulent cette légalisation.
Ça, je vais laisser les débats au sein de la majorité à la majorité. Non, mais je voudrais revenir...
C'est un côté un peu schizophrénique, c'est-à-dire que d'un côté, prohibition, on met des amendes à ceux qui fument dans la rue, etc., etc., comme ça a été le cas à partir de cet été. Puis d'autre côté, ben, on a toutes ces expérimentations potentielles, ces idées qu'on peut lancer d'une ouverture potentielle vis-à-vis de ces usages différents.
Oui, enfin, je crois que ce qu'il faut essayer de déconstruire un peu aussi, c'est une forme de caricature. Moi, j'entends l'argument principal, c'est l'échec de la politique répressive pour introduire un cadre nouveau.
Alors, vous n'êtes pas d'accord?
Je suis pas forcément d'accord avec les deux termes. D'abord avec échec, parce que on est certes encore à des niveaux très élevés de consommation de cannabis par rapport à beaucoup de nos voisins européens. Mais les choses s'améliorent singulièrement chez les jeunes et depuis un certain nombre d'années. On a des chiffres qui sont produits par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui sont très clairs sur le sujet, à la fois sur l'expérimentation, l'usage dans le mois et l'usage régulier. Et donc ça prouve bien qu'on n'est pas qu'un pays répressif, c'est un pays aussi préventif. Et c'est un pays préventif qui met les moyens.
Vous êtes médecin, vous avez cette formation-là.
Je suis médecin de santé publique. Ouais. Et on a aujourd'hui un fonds de lutte contre les addictions doté de 120 millions d'euros par an, ce qui n'existait pas. Et ça fait partie des changements récents, effectivement, que vous mentionniez au début de votre émission, qui... Et on sait désormais ce qui fonctionne en matière de prévention. On a des programmes qui sont dits de renforcement des compétences psychosociales qui travaillent, si vous voulez, sur les ressorts les plus intimes chez nos adolescents et même avant, hein, dès l'école primaire, pour doter les jeunes d'une estime de soi, d'une confiance en eux-mêmes, d'un esprit critique, d'une confiance dans l'adulte et dans leur père qui leur permet de se comporter différemment vis-à-vis de toutes ces sollicitations-là. L'idée n'est pas de construire un homme idéal ou une jeune femme idéale.
C'est pas de l'eugénisme.
C'est pas de l'eugénisme. Il faut se garder un peu toutes ces questions-là. Mais c'est d'arriver à doter les jeunes de ressorts qui permettent d'être dans une prévention intelligente et une prévention éducative. Désormais, ces programmes se déploient et je vous dis encore une fois, on a les moyens de le faire.
On a l'impression, Caroline Janvier et Marie-Geoffrey Roustide, que c'est une course assez rapide maintenant entre justement ce que disait Nicolas Price, c'est-à-dire c'est aussi un marché. On voit bien que certaines des positions des députés se disent tout compte fait en légalisant par exemple le cannabis, en pouvant soi-même faire de l'auto-culture ou encore en autorisant des grandes entreprises qui pourraient investir dans ce domaine-là, eh bien on aura un marché qu'on pourra aussi taxer, qu'on pourra utiliser. On sait que pour le cannabis médical, il y a 6 fournisseurs agréés qui viennent d'ailleurs que de la France, à part Boiron, le laboratoire qui est spécialiste en homéopathie, qui a passé un accord avec un laboratoire britannique qui viennent d'Australie, d'Israël ou du Canada, qu'au Canada, une des entreprises a investi justement au Portugal pour pouvoir fabriquer du cannabis et donc le répandre en Europe, ce cannabis médical. Tout cela, on se dit, il y a quand même des grands enjeux qui sont aussi des enjeux économiques, Caroline Janvier.
Oui, bien sûr, on peut pas les nier. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on réfléchisse à ce sujet avec des solutions très concrètes, puisque on le voit, le marché du chanvre thérapeutique sur lequel Israël, par exemple, s'est positionné très tôt est un marché
et le Canada.
Milliards. Voilà, et le Canada aussi, mais c'était Israël qui était très précurseur sur cette question-là. Donc on le voit aussi avec évidemment le CBD et celui du chanvre à usage récréatif. Donc effectivement, la question économique, c'est une question qui est à prendre en compte, mais qui doit pas guider la réflexion. D'autant que la France a une filière de en matière de chanvre parmi les meilleures, et on a aussi s'agissant des capacités industrielles, notamment d'extraction, tous les équipements et les savoir-faire nécessaires pour aborder ce marché-là. Donc c'est effectivement un élément important. Mais encore une fois, moi je crois qu'il faut d'abord envisager la question de la santé publique et voir comment, et je trouve que le pays, le modèle portugais est très intéressant à ce titre, donc le Portugal qui a dépénalisé en 2001 l'ensemble des drogues et qui grâce à cela a fait baisser de façon drastique la consommation, notamment d'héroïne, mais aussi celle de cannabis, qui est 3 fois inférieure à celle de la France. Et donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est quels sont les meilleurs leviers de politique publique pour protéger nos jeunes, pour faire baisser la consommation et puis pour lutter contre l'activité criminelle du marché noir.
Alors, j'ai pas l'impression, je vais vous donner la parole, Marie-Geoffrey aussi tout de suite, mais je vois, il est le seul dans le studio avec moi, Nicolas Price, qui n'a pas l'air d'être d'accord avec vous, Caroline Janvier, juste brièvement sur la question de l'exemple portugais.
Non, mais juste un mot sur le fait que le Portugal n'a pas dépénalisé, il a décriminalisé, ce qui est une distinction tout à fait fondamentale, puisque dans le droit portugais, la position et l'usage restent interdits, et c'est en fait une façon de traiter les personnes qui, le cas échéant, sont interpellées pour possession ou usage qui est un peu différente de la nôtre. Donc là, je voudrais juste dire que le Portugal n'a pas dépénalisé. Après, si vous me laissez encore une minute, sur les différents exemples internationaux, on a parlé tout à l'heure du Canada. Moi, je veux bien qu'on garde ça avec un certain intérêt parce que c'est une culture qui nous est relativement proche, la culture canadienne, relativement, même si c'est un pays d'Amérique du Nord. Moi, les objectifs d'un programme tel que ceux qu'ils ont développé, c'est de réduire les niveaux d'usage de la consommation et réduire la criminalité organisée. Sur ces deux objectifs-là, pour l'instant, et même si l'expérience n'est pas très ancienne, on en convient, il faudra regarder de près, et nous finançons des études pour regarder ce qui se passe clairement au Canada, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Et on est dans un pays qui, en plus, sait protéger ses mineurs. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'en France, alors qu'on a interdit la vente d'alcool et de tabac aux mineurs, tout le monde peut s'en procurer quand il est mineur, en réalité. C'est très très difficile de faire ça. Or, au Canada, quand vous allez commander une bière dans un pub, vous savez très bien que même si vous avez 30 ans, la plupart du temps, on vous demande votre carte d'identité pour vérifier ça. Donc, ce qui est un objectif central, me semble atteignable éventuellement au Canada, c'est-à-dire protéger les mineurs, c'est beaucoup plus compliqué à envisager en France. Et encore une fois, surtout, les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Marie-Geoffrey Rostit, vous qui êtes sociologue, qui travaillait sur les politiques des drogues et chercheur à l'INSERM, et vous avez participé à des organismes internationaux, justement, de comparaison. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que vient de dire à la fois Nicolas Price et Caroline Janvier?
Alors, sur le modèle portugais, effectivement, c'est un modèle de décriminalisation de l'usage. Et moi, je pense que c'est un des meilleurs modèles, puisque c'est un modèle qui montre qu'en fait, on peut décriminaliser tout en encadrant. Donc, en fait, au Portugal, l'intérêt par rapport à la France, c'est quand un usager est arrêté en position de substance, il va passer devant une commission qu'on appelle une commission de dissuasion de la toxicomanie, et il va avoir la possibilité de voir un médecin, un juge, et on va évaluer sa situation et lui proposer une mesure qui est adaptée à sa situation personnelle. Alors qu'en France, avec cette amende forfaitaire, en fait, on propose une amende et donc on introduit une mesure en fait qui n'est pas adaptée en fonction des pratiques sociales qui peuvent être différenciées selon les usagers. Alors sur la question du Canada, moi je serais moins sévère puisque en fait au Canada il n'y a pas un seul modèle mais des modèles. Et quand on regarde par exemple le modèle qui a été mis en place par exemple en Colombie-Britannique ou au Québec, ils sont complètement différents. Donc je pense que c'est un petit peu prématuré de dire que les résultats canadiens ne sont pas encore au rendez-vous. Le modèle québécois, par exemple, qui est un modèle qui est beaucoup plus strict en termes de régulation, va produire certainement des effets qui seront très différents de ceux d'autres provinces. Donc moi, je pense que pour le moment, en tout cas, on voit dans la littérature internationale que ce qui marche, ce sont les modèles qui sont régulés. Et en fait, à partir du moment où il y a trop de place qui est laissée au libéralisme, là, on est dans des modèles de légalisation, par exemple, qui vont avoir des effets néfastes. Juste un dernier élément sur la question de la justice sociale, qui me paraît être quelque chose de très important, et sur la dimension économique que vous évoquiez tout à l'heure. Si on veut que les modèles de régulation, tels par exemple que la légalisation soit efficace et ne produise pas trop d'effets néfastes, c'est très important d'être attentif à ces effets de justice sociale. En Amérique du Nord, enfin aux États-Unis, les études disponibles montrent en fait que ce sont des gros opérateurs économiques qui bénéficient essentiellement bénéfices en fait économiques liés à la légalisation et que ça contribue à reproduire des injustices sociales. Par exemple, ce sont des blancs riches qui vont être amenés à profiter de la vente du cannabis, alors que les Afro-Américains sont encore trop souvent exclus de ce système. Et je pense que ça, c'est quelque chose à avoir vraiment en tête s'il y a un mode de régulation nouveau qui est mis en place en France, parce que quand on pense légalisation du cannabis, on pense également à la question des trafics dans les banlieues, et donc il faudrait que cette légalisation, en fait, elle puisse profiter à tous et pas uniquement aux plus riches et à ceux qui sont déjà dans des positions dominantes.
Oui, c'est une question aussi, effectivement, parce qu'on sait, par exemple, que certains maires ou de banlieue, s'ils poursuivent pour certains les magasins de CBD, ça peut être le cas de certains maires qui demandent à les interdire, eh bien certains autres ne voudraient pas cette légalisation parce qu'ils se disent que c'est la déstructuration d'une économie parallèle, mais aussi la déstructuration de beaucoup de quartiers. Caroline Janvier, j'imagine que vous en avez discuté au sein de cette commission, où vous réfléchissez avec une grande enquête que vous avez lancée auprès des Françaises et des Français pour savoir comment on consomme justement ce cannabis. Vous réfléchissez à ce que ce bouleversement pourrait être pour l'économie locale, pour des structures d'économie parallèle, par exemple.
Tout à fait. Et de ce qu'on a pu constater sur cette situation, c'est que finalement, ça a longtemps été une façon d'acheter, selon une formulation bien connue, d'acheter la paix sociale dans les quartiers. Et quand on regarde dans le détail, en réalité, cette économie, elle bénéficie à un tout petit nombre de dealers, à ceux qui sont les têtes de réseau, qui sont en haut des pyramides, et la grande majorité ne gagne très mal. N'en tire pas profit, avec évidemment des risques de passage à la prison. On a des chiffres, hein, genre 15 000 personnes dans les têtes de réseau qui ont des revenus importants, plusieurs centaines de milliers des revenus intermédiaires, et on passe à quelques millions pour ce qui est quelque chose autour de 100 euros par jour. Évidemment, sans cotiser, sans avoir aucune garantie d'emploi. Donc, on sait bien que c'est un système qui est fragile, qui par ailleurs comporte beaucoup de risques. Hein. On a notamment évoqué la question des femmes et des réseaux de proxénétisme qui sont parfois associés, la question du trafic d'armes aussi. Et ce que l'on sait, c'est que dans certains endroits, il y a des expérimentations qui sont menées pour travailler avec ces dealers, pour les intégrer dans le marché légal, parce qu'ils ont une connaissance aussi des réseaux logistiques et de la façon dont on peut organiser un réseau de distribution. Et donc l'objectif est bien celui-là, c'est de ne pas se satisfaire d'une situation qui est un miroir et qui en réalité cache beaucoup de problématiques à la fois pour les personnes qui y participent et pour tout l'entourage, mais évidemment de réfléchir à cela pour ne pas laisser cette situation sans solution.
Oui, sur ce point, Nicolas Price, est-ce que vous pensez, vous en tant que président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues, que le temps est venu que ce débat que nous avons assez paisible autour de cette table soit ouvert et devienne un véritable débat public? On a l'impression que, alors ce sont des sondages, hein, que 80% des Français disent il est temps d'en discuter, de la pénalisation, des pénalisations, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ça serait bon, dans le contexte actuel, d'ouvrir une vraie discussion publique qui va peut-être aussi aller jusqu'à la présidentielle et qui obligera peut-être aussi les candidats à la présidentielle à se positionner sur ces questions-là, ou pas du tout?
Oui, enfin, moi je suis évidemment favorable à toute discussion à partir du moment où les arguments sont sincères, comme nous l'avons aujourd'hui. Mais je reviens à cette histoire, l'échec des politiques répressives. Moi, je veux juste qu'on se donne le temps d'échanger un peu les données principales sur le sujet. C'est vraiment important qu'on reparte et qu'on peut-être on informe au préalable, et votre émission probablement y contribue, nos concitoyens sur un certain nombre de choses qui ne sont pas très simples à comprendre, et en particulier le distinguo entre les trois composantes. Donc la mission d'information de l'Assemblée nationale y contribue, on y contribue aujourd'hui. Si le débat doit avoir lieu dans le cadre de la présidentielle, tant mieux.
Oui, oui, et vous êtes tous les trois d'accord sur ce point, Caroline Janvier et Marie-Geoffrey Rostine? Très brièvement, on termine l'émission.
Alors oui, moi ce qui me semble très important effectivement, c'est d'ouvrir ce débat et puis également de s'appuyer sur les savoirs des usagers. Les usagers ont une expérience en matière d'usage de s'appuyer sur leur expérience et également d'avoir une vision inclusive où l'ensemble des parties prenantes puissent prendre la parole et être pris en compte.
Et pour vous?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce tabou pour enfin oser affronter cette réalité qui a un lourd impact en France.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Nicolas Price. Je rappelle que vous êtes président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. On peut aller sur le site de la MILDECA pour savoir exactement quelles sont vos missions. Caroline Janvier, députée du Loiret, est-ce que la consultation continue encore auprès des Français et des Français sur cette question du cannabis récréatif?
Tout à fait, et je vous invite à y participer sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'au 28 février.
Merci beaucoup Marie-Geoffrey Rostide, sociologue, chercheur à l'INSERM et spécialiste des politiques des drogues. C'était le temps du débat, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Adèle Rosier et Bruno Barada à la réalisation, Alexandre Manzanares à la technique, Clément Daté.